mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 14 novembre sur Escapade. Les nouvelles du monde, que certains surnomment aussi la petite galerie des horreurs. Aujourd'hui, on va parler climato-scepticisme, les procès du Rassemblement National et leur soutien, la COP29 avec des pays qui quittent carrément les rangs des négociations, et puis les remous de ce qui se passe de la guerre contre Israël au Gaza, pardon, avec les remous sur le territoire français, manifs, contre-manifestations, matchs de foot et autres joyeusetés. Voilà pour le programme. On commence donc avec des nouvelles, de procès, les procès du Rassemblement National, où le parquet a requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 2 fermes, et une peine d'inéligibilité pour elle et pour tous les autres prévenus de ce procès, dont Louis Alliot. Vous le savez sûrement, les personnalités du Rassemblement National sont jugées depuis ce 30 septembre, car ils sont accusés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit de leur parti. Le parquet demande également donc au parti une réparation de 4,3 millions d'euros. Pour ce qui est de Marine Le Pen elle-même, le parquet donc a demandé 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, mais surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui serait valable dès le jour du jugement, et ce même si des appels ou autre chose venaient continuer de ralentir ce procès, ce qui donc menacerait directement sa possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. À côté de cela, la dirigeante du parti, ancienne dirigeante du parti, également écope d'une amende de 300 000 euros, donc toujours dans la réquisition du parquet. Pour l'accusation, donc, a été mis en place un système de gestion centralisé établi pour vider les enveloppes de 21 000 euros par mois quand même, auxquelles les députés européens avaient le droit, et normalement utilisé pour rémunérer des assistants parlementaires qui se sont révélés visiblement plutôt fictifs puisqu'ils travaillaient en réalité pour le parti, que ce soit des gardes du corps, des graphistes ou des secrétaires, le tout en vue de soulager les finances du même parti. Pendant les interrogatoires, une trentaine au total jusqu'à maintenant, les prévenus ont bien eu du mal à apporter des preuves de travail ou de justifier des échanges de mails compromettants. Ils ont expliqué qu'ils avaient dû caser telle personne sur un contrat, transférer ou passer un tel ou un tel d'un député à un autre. Une défense donc pas très solide et qui a été partagée de manière assez unanime par tous les prévenus, ce qui a frisé parfois l'absurde, comme a dit d'ailleurs l'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, dans sa plaidoirie d'il y a 2 jours. Le Parlement européen a quant à lui évalué donc le préjudice financier à 4,5 millions d'euros. Il n'en réclame que 3,4 puisqu'une partie a déjà été remboursée. Le procès reprendra lundi prochain avec les plaidoiries de la défense prévues sur 2 semaines. Et dans cette affaire, il y a des soutiens d'ailleurs plus étonnants que d'autres, puisque dans la foulée de l'annonce de ces réquisitions dont je viens de vous parler, l'ensemble du parti concerné, le Rassemblement National, a entonné son refrain favori, celui d'une justice politique qui serait aux ordres, le tout visant uniquement d'empêcher la députée du Pas-de-Calais de se porter candidate à la présidentielle de 2027. Ça, à la limite, on n'en attendait pas moins. Mais plus inhabituel, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est lui aussi monté au créneau. Il a écrit sur Twitter ou sur X « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français ». Il dérogeait là au passage au principe de la séparation des pouvoirs, qui semble compliqué à respecter quand on est ministre de l'Intérieur, vu aussi les dernières déclarations de M. Retailleau sur d'autres affaires, notamment celle de l'enfarinage du Vigan. On revient à Gérald Darmanin. « N'ayons pas peur de la démocratie, dit-il, et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens », insiste le député du Nord, hein, qui estime, lui, donc qu'un verdict devrait tenir compte des considérations électorales. Bon, une fois qu'il a publié ce tweet, une note des utilisateurs du réseau social, de nombreuses personnes l'ont signalé en rappelant, par exemple, une évidence juridique, à savoir l'article 131-26-2 du Code pénal, qui dit que la peine d'inéligibilité donc est obligatoire justement à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné du présent article. Et parmi les cas où cette peine s'applique automatiquement, justement, le détournement de fonds publics, c'est précisément ce dont est accusée Marine Le Pen. Donc la réquisition du parquet est tout à fait conforme à la loi. C'est un peu gênant pour l'ancien ministre de l'Intérieur, puisque cette disposition, justement, elle a été instaurée, figurez-vous, par la loi Sapin 2, une loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, une loi Sapin 2 entrée en vigueur en 2016, qui implique donc que ce ne sont pas les magistrats qui décident ou pas de l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais bien la loi. Et cette loi, figurez-vous qu'elle a été votée par le Parlement, c'est-à-dire la représentation nationale, à une époque où Gérald Darmanin siégeait lui-même comme député.
La boulette, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
De nouvelles pluies torrentielles se sont abattues encore hier sur le sud et l'est de l'Espagne. Ça fait seulement 2 semaines après les inondations dévastatrices qui ont fait au moins 223 morts du côté de Valence et d'autres qui ont touché aussi la province de Tarragone. Là, c'est donc sur la côte est de l'Espagne, une nouvelle fois que l'eau a envahi les rues en raison de rideaux de pluie. C'est la ville de Malaga et ses environs qui sont touchés. Les habitants ont en revanche cette fois-ci reçu l'alerte rouge bien plus tôt que dans la région de Valence 2 semaines avant, puisque c'était depuis mardi soir. Nous avons été plus qu'avertis. Ce matin, la police est déjà passée dans les rues pour nous prévenir, expliquait par exemple une habitante. L'AEMET, c'est l'agence météorologique espagnole, a finalement levé ce matin son alerte rouge aux intempéries dans le sud et l'est du pays après une nuit marquée par de fortes précipitations, pour lesquelles les autorités n'ont pas signalé à ce stade de nouvelles victimes. En revanche, les dégâts matériels sont considérables. Les autorités de Valence avaient été vivement critiquées pour avoir envoyé trop tard leur message d'avertissement le 29 octobre dernier. De nombreux habitants de la zone se trouvaient déjà sous l'eau quand le message a été transmis. L'indignation à l'égard des autorités a d'ailleurs donné lieu à des manifestations massives ce week-end, un samedi, avec la plus grosse de 130 000 personnes à Valence, des personnes réunies pour demander la démission du président de la région autonome, le conservateur Carlos Mazón, en raison de sa gestion défaillante des inondations qui ont fait 217 morts et 78 disparus dans la province le 29 octobre. Et pendant ce temps, on apprend que les Français sont de plus en plus climato-sceptiques. C'est en tout cas ce que révèle le 25e baromètre des représentations sociales, publié par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le baromètre des représentations sociales du changement climatique. Voilà. Ce 25e baromètre a été publié au mois d'octobre. Selon une étude qui est basée sur un échantillon de 1500 personnes environ, près de 30% des personnes interrogées considèrent que les désordres climatiques et leurs conséquences, à savoir canicules, tempêtes, sécheresses ou les inondations plus fréquentes et sévères, la fonte des glaciers ou l'élévation du niveau des mers, toutes ces conséquences seraient des phénomènes naturels comme il y en a toujours eu. C'est une augmentation dans les chiffres de 7 points par rapport à 2023 et 12 points de plus depuis 2020. Et si on monte au lancement de ce baromètre, c'est-à-dire à l'année 2000, environ un tiers des personnes interrogées restent même sceptiques quant à l'implication de l'effet de serre dans le réchauffement climatique. Parce qu'il y a ceux qui disent que ce n'est pas l'effet de serre et ceux qui disent que ce n'est pas à cause des humains. C'est quand même deux positions différentes de climato-scepticisme. Cette stabilité interroge face au consensus scientifique croissant, notamment illustré par les rapports du GIEC, soulève donc l'étude. L'ADEME note aussi que la proportion des gens qui ont répondu en affirmant avoir subi les effets du changement climatique diminue à mesure que le revenu du foyer augmente. C'est-à-dire que 58% pour les foyers qui déclarent un revenu inférieur à 1 000 euros déclarent avoir subi des dégâts liés au réchauffement climatique, alors que seulement 42% de ces personnes affirme la même chose pour ceux qui ont donc des revenus supérieurs à 2500 euros par unité de consommation. Donc le climato-scepticisme est plus élevé, ou en tout cas les effets du changement climatique semblent bien plus réels pour les gens qui ont moins d'argent. Le climato-scepticisme est également bien plus présent chez les personnes de droite et d'extrême droite que chez celles et ceux qui se déclarent de gauche et d'extrême gauche. Et ce baromètre montre aussi que les Français interrogés sont de plus en plus exigeants envers les pouvoirs publics pour limiter les conséquences du changement climatique. Donc là, on parle évidemment des gens qui reconnaissent l'existence du changement climatique. Par exemple, 7 personnes sur 10 sont favorables à la taxation du transport aérien. Ça fait plus de 25% en 20 ans. Si on se repère aux mêmes questions donc, qui ont été posées dans les années 2000, 84% des sondés jugent souhaitable d'interdire la publicité pour les produits qui ont un fort impact environnemental. Ça fait 4% de plus par rapport à 2023. Et 72% seraient pour obliger les propriétaires à rénover et à isoler les logements. Ce constat permet donc de nuancer un petit peu le déni grandissant face à l'imminence du réchauffement climatique. Y aura-t-il bientôt une loi d'ailleurs pour sanctionner le climato-scepticisme dans les médias ? Ça fait un an que cette idée a émergé et des députés issus de 8 groupes politiques ont déposé hier une proposition de loi qui vise donc à garantir le droit d'accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux. Pour l'association Quota Climat, qui est à l'origine de cette réflexion, un changement des règles du jeu est nécessaire pour encourager et permettre à l'écosystème médiatique de jouer le rôle essentiel et attendu face à l'urgence écologique. En effet, la couverture médiatique des enjeux environnementaux reste trop faible. L'année dernière, en 2024, enfin cette année pardon, une année noire sur le plan climatique, le temps d'antenne qui a été dédié aux enjeux environnementaux a diminué de 30% par rapport à 2023, selon l'Observatoire des médias pour l'écologie. Donc c'est pas une légère diminution, c'est ce qu'on appelle un gros coup de rabot. La proposition de loi qui est portée par le député Stéphane Delautrette, un socialiste, prévoit entre autres de renforcer les prérogatives de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication, notamment en matière de protection de l'environnement. Ce texte propose par exemple d'inclure dans les conventions que les chaînes de télévision et les radios concluent avec l'ARCOM des volumes horaires qui seraient dédiés aux enjeux environnementaux, donc une sorte d'obligation de quantité en tout cas d'heures de traitement de ces questions. Ça propose également de créer un observatoire de la couverture médiatique des enjeux écologiques pour avoir un bilan régulier de ce qu'il en est là-dessus et d'instaurer des règles, voire des quotas en période électorale afin d'assurer une prise en compte des enjeux environnementaux dans le débat public et enfin de renforcer la mission du service public de l'audiovisuel concernant l'information sur la crise écologique. Donc en gros, de produire aussi que le service public fasse plus de programmes sur ces problématiques. Le texte entend rendre obligatoire les contrats climat. Ce sont des contrats qui visent à réduire le volume de publicité relative à des produits ou services qui ont des effets négatifs sur l'environnement, par exemple l'automobile ou l'aviation. Pour Quota Climat, l'amélioration de la couverture médiatique des enjeux environnementaux est à portée de loi. L'association espère en effet une adoption de leur texte courant 2025. Bon, la nécessité d'une telle loi ne fait pas l'unanimité parmi les experts, notamment les experts des médias, puisque certains craignent pour leur liberté d'expression ou leur liberté éditoriale. Mais d'autres, comme la journaliste Anne-Sophie Novel, rappellent aussi les principaux freins, selon eux, à une couverture médiatique qui serait à la hauteur de l'urgence écologique, à savoir eh bien, des cas d'intimidation ou de menaces physiques contre les journalistes qui traitent d'environnement. Et sont également cités ce qu'on appelle les poursuites bâillons, hein, celles où des grosses entreprises attaquent des journalistes, par exemple, ou des poursuites juridiques. Et enfin et surtout, le problème est évoqué de la dépendance de nombreux médias envers des actionnaires réactionnaires et parfois très climato-sceptiques.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Et on va parler d'un cas très concret, celui de l'Argentine, qui vient tout bonnement de retirer sa délégation de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient en ce moment en Azerbaïdjan. Les experts argentins, donc envoyés à la COP29 par le secrétariat argentin à la protection de l'environnement, ont bien assisté aux 2 premiers jours de la conférence, mais ils ont ensuite reçu l'ordre de rentrer au pays. Pour le journal argentin Clarín, il s'agit pour le président Javier Milei de se rapprocher de Donald Trump ainsi et également d'envoyer un message à Emmanuel Macron. En effet, certains observateurs estiment que ce n'est pas une coïncidence si le retrait de l'Argentine de la COP29 a été annoncé à quelques jours de l'arrivée à Buenos Aires d'Emmanuel Macron, car le président français est considéré à l'international comme l'un des meneurs concernant la lutte contre le changement climatique. Et oui, c'est vous dire le niveau mondial où on en est. Ce n'est pas une grande surprise, d'ailleurs, si l'Argentine se retire de cette délégation, puisqu'on remarquait déjà depuis le début du mois d'octobre que la délégation argentine n'était composée que de très très peu de personnes. Une délégation rikiki qui n'ouvre pas la bouche, même ce sont les mots de commentateurs journalistiques. Cette équipe n'était composée que de technocrates qui assistent aux négociations en silence. Si on revient à la France a elle bien envoyé une délégation à Bakou, mais la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, elle a annoncé hier qu'elle n'irait pas à la COP29 en raison des frictions avec l'Azerbaïdjan. En effet, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a récemment accusé le gouvernement français de commettre des crimes dans les Outre-mer, et particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Ses propos ont été considérés comme inacceptables par la ministre. Pour ce qui est de l'Argentine, le président argentin Javier Milei, qui a pris ses fonctions au mois de décembre 2023, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas que l'influence humaine sur le changement climatique était éprouvée, et il a interdit aux diplomates de son pays de soutenir l'agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable, donc la même position que celle de Donald Trump, qu'il doit d'ailleurs rencontrer aujourd'hui et demain en Floride aux États-Unis, et à qui il a téléphoné aussi le 12 novembre pour le féliciter. Par le passé, Milei n'a pas hésité à supprimer d'ailleurs le ministère de l'Environnement argentin, purement et simplement. D'ailleurs, les spéculations sur le fait que l'Argentine se retire ou pas des accords de Paris vont bon train, et ce, pourtant alors que l'Argentine aurait beaucoup à gagner à participer à ces accords, puisque l'Argentine fait justement partie des pays qui pourraient bien recevoir des millions pour accélérer le développement des énergies renouvelables ou pour faire face aux dégâts engendrés par les catastrophes climatiques. Voilà, tout se passe donc pour le mieux au niveau mondial. Ne vous inquiétez pas, on est géré par des gens vraiment, vraiment responsables.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Israel is forever, c'était le nom de ce gala. D'autres l'ont surnommé le gala de la honte, puisqu'il c'est un gala qui est mené en soutien à l'État hébreu et à sa politique. Eh bien, il a mobilisé des milliers de contre-manifestants hier à Paris. Quelques milliers de personnes ont ainsi manifesté à l'appel d'associations, de syndicats ou de partis politiques de gauche pour dénoncer la tenue hier soir à Paris donc du gala Israel is forever. Israel is forever, c'est une association proche de l'extrême droite israélienne. Le rassemblement donc pour dénoncer ce gala avait lieu à 18h à la gare Saint-Lazare. Depuis quelques jours déjà, l'annonce de la venue du ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui est connu pour ses positions suprémacistes en faveur d'une colonisation tous azimuts des territoires palestiniens, eh bien, l'annonce de sa venue avait provoqué un tollé politique et des demandes d'interdiction de l'événement, de la part notamment d'élus de gauche. Mardi, le porte-parole de ce membre du gouvernement de Benjamin Netanyahou a finalement affirmé que le ministre ne serait pas présent en personne au gala. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui était interrogé sur RTL hier, indiquait d'ailleurs ne pas avoir interdit le gala, dans la mesure où il ne semblait pas présenter de risque de trouble à l'ordre public important, et d'ailleurs qu'il s'engageait personnellement à en assurer la protection policière pour qu'il puisse bien se tenir. Israel is Forever, cette association a été fondée en 2015 par le militant sioniste radical Jacques Kupfer, qui est un ancien dirigeant du Likoud de France, et donc un fervent partisan de l'annexion de la Cisjordanie, ce que rappelait le journal Le Monde en mars 2023. D'ailleurs, la fille donc, du fondateur de cette association, Nili Kupfer-Naouri, préside aujourd'hui l'association, et depuis un an, ses prises de position ont provoqué de très nombreuses critiques. Par exemple, lorsqu'elle affirmait sur le plateau de CNews en octobre 2023 qu'il n'y avait pas de population civile innocente à Gaza, alors que l'objectif même donc, de l'événement d'hier à Paris est de récolter des fonds pour financer des actes qui sont contraires au droit international, par exemple la colonisation des terres en Cisjordanie. Pendant ce temps, d'ailleurs, à Paris, un autre rassemblement d'une petite cinquantaine de personnes a eu lieu contre toujours la venue à Paris du ministre israélien. Il se tenait place de l'Étoile et il était organisé par pas mal d'associations qu'on peut qualifier aussi d'assez respectables, comme SOS Racisme, La Paix Maintenant ou Golem, qui est un groupe de juifs contre la colonisation et la guerre à Gaza. Eh bien, même ce rassemblement n'était pas autorisé, hein, lui, contrairement au gala. La police a verbalisé pas mal de ces protestataires pour participation à une manifestation interdite. Si on continue sur les remous parisiens et l'actualité des soutiens à Israël ou à Palestine, l'université de Paris 8 était bloquée justement en soutien, en solidarité avec la Palestine hier, et pour dénoncer aussi la tenue de ce gala à Paris, et pour dénoncer aussi la tenue ce soir du match France-Israël au Stade de France. D'ailleurs, le préfet de Paris a annoncé au sujet de ce stade qu'il allait interdire les drapeaux palestiniens dans l'enceinte du stade. Et il explique qu'il ne pourra y avoir que des drapeaux français ou israéliens. 4000 policiers seront d'ailleurs déployés. Ils procéderont à un double contrôle et établiront un périmètre de sécurité autour du stade, alors que 1600 stadiers seront engagés dans l'enceinte. Bon, c'est bien, ça fera un peu de public pour le match, puisque le match connaît une campagne de boycott massif. Il n'y a que 20 000 places vendues, alors que le Stade de France a une capacité de 80 000 spectateurs. D'ailleurs, Macron a annoncé qu'il serait de la partie puisqu'il se rendrait personnellement comme spectateur de ce match. En tout cas, ce soir, dans les rues de la capitale, on craint des affrontements comme ceux qui ont eu lieu en marge du match opposant les supporters, comme ceux qui ont eu lieu entre les supporters du Maccabi Tel Aviv et ceux de l'Ajax d'Amsterdam la semaine dernière. En effet, à Paris, c'est le Bétard qui a annoncé qu'il ferait des actions violentes dans Paris. Le Bétard, un groupe suprémaciste fondé dans les années 20, par Jabotinsky, qui était un sioniste admirateur du fascisme. Voilà, en tout cas, de quoi laisser craindre des débordements, peut-être dans la foulée. Qu'est-ce que je cherchais ? Excusez-moi, je me suis perdu dans mes boutons. Suite à l'élection de Donald Trump et les annonces de composition du futur gouvernement américain, en France, c'est le ministre macroniste Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui a salué vivement la nomination d'Elon Musk sur Twitter hier. Enfin, sur X, on dit. Il a écrit « Félicitations d'avoir accepté ce grand défi. Je me réjouis de partager avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie, réduire les lourdeurs administratives et repenser les organisations publiques au bénéfice de l'efficacité des agents publics. » Elon Musk, s'il est besoin de le rappeler, il est milliardaire, il est propriétaire de Tesla et de Twitter, et donc il vient d'être nommé par Donald Trump à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Donc en clair, il sera chargé de faire des coupes massives dans les services publics, de déréguler les règles de protection de l'environnement ou des travailleurs, et certainement de licencier des fonctionnaires. Et bien voilà donc la personne qui a été vivement félicitée par notre ministre français de la fonction publique, avec qui il dit et souhaite partager les bonnes pratiques. D'ailleurs, pour ce qui est de la France, le ministre de la fonction publique a annoncé pour 2025 un plan de destruction des arrêts maladie pour les fonctionnaires, en augmentant la durée de carence en cas de maladie. Cela va ponctionner le salaire des fonctionnaires en arrêt pour réaliser, selon ses annonces, des économies de 1,2 milliard d'euros, ce qui est considéré par beaucoup comme une attaque contre le droit du travail et la sécurité sociale. Et sinon, son nom, Kasbarian, ne vous est peut-être pas étranger, puisqu'auparavant, il avait porté la loi dite anti-squatteur, une loi dénoncée par toutes les associations pour le droit au logement et pour l'aide aux sans-abri. C'est une loi, la loi Kasbarian, qui a renforcé les sanctions envers les personnes qui occupaient des logements vides en les punissant de prison. Et elle a aussi permis aux propriétaires de faciliter la résiliation d'un bail et d'expulser des locataires très rapidement en cas d'un loyer impayé. Et oui, car dès que vous ne payez pas votre loyer, vous êtes un squatteur. Voilà, ce petit CV et rappel subjectif, hein, trouvé sur les pages du média en ligne Contre-Attaque. Pour terminer ces nouvelles du monde, je vous ai parlé la semaine dernière de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, car c'était la journée nationale de lutte contre ces phénomènes qui sont de plus en plus inquiétants pour nos jeunes. On va donc terminer ces nouvelles du monde toujours sur ce sujet avec le témoignage d'une personne assez jeune, de 18 ans, qui est très concernée par ces questions, qui nous avait contacté à la radio. Il est notamment candidat pour devenir ambassadeur sur ces questions. Et en attendant une réponse officielle, il œuvre toujours dans son travail et son temps libre pour diffuser justement des messages de prévention ou proposer des ateliers de sensibilisation. On s'est donc téléphoné hier et j'ai pu lui poser quelques questions. Et je vous laisse, eh bien, avec ce témoignage.
Bah écoutez, je me présente Stéphane, j'ai 18 ans, ancien victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, et je suis né dans le Tarn-et-Garonne. Alors moi, je propose toute l'Occitanie des interventions scolaires auprès des écoles, écoles élémentaires, jusqu'au lycée. Donc je fais de la prévention, donc je prépare des questionnaires de sensibilisation pour les élèves en situation, peu importe laquelle, situation de handicap, des choses comme ça. Et donc je suis en service civique pour pouvoir accompagner ces élèves-là. Sinon, pour les autres concernés, nous sommes en train de préparer des affiches, des vidéos, des supports pour pouvoir communiquer via de cette communication-là.
Pour essayer d'identifier une situation quand on est soi-même peut-être victime ou l'entourage, par exemple, quel type de, quelles sont un petit peu les définitions en fait, qu'on peut donner tout simplement du phénomène ?
Alors pour être plus simple et franc avec vous, alors moi personnellement, quand j'ai été victime de harcèlement scolaire, les professionnels n'ont pas reconnu ma situation. Faute parce qu'il y a eu de réels manques d'informations, de communication et puis surtout de formation. Ils n'ont malheureusement pas pu reconnaître le harcèlement que j'ai pu subir. Malgré tout, donc les parents ont pu intervenir ça. Alors c'est difficile de reconnaître le harcèlement. Par contre, on peut en réalité voir si des enfants sont en train de se disputer sur n'importe quelle raison, sur le physique, des façons de voir les choses, des façons de parler, s'il y a de la violence. Donc il faut immédiatement intervenir.
Et sur l'aspect cyber, donc Internet, principalement les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes communiquent pas mal entre eux, donc des fois justement loin des regards des adultes, quelle forme ça peut prendre et surtout comment est-ce qu'on peut arriver à aider de ce côté-là ?
Alors pour moi personnellement déjà, le harcèlement scolaire est moins pire que les conséquences du cyberharcèlement, parce que lorsque vous êtes harcelé à l'école, c'est uniquement à l'école, alors que maintenant il y a ce principe de réseaux sociaux, donc du coup ça peut empirer face au cyberharcèlement, effectivement, à la maison, des choses comme ça, communiquer par message, on ne sait pas de quel support. La meilleure des solutions de ce qu'ils proposent actuellement, c'est de bloquer la personne. Sauf que le souci, c'est qu'il y a un réel manque d'effectifs via de la psychologie de l'enfant, puisque ça peut prendre diverses raisons. La meilleure solution, c'est d'en parler à un adulte. Il y aura toujours quelqu'un qui sera à l'écoute via de la personne qui est en train de subir des choses. Après, si elle est en réel manque, nous avons créé notre propre logiciel, notre propre réseau social pour pouvoir en discuter. Et nous, on redirige cet enfant pour discuter avec un professionnel qui est reconnu d'état public. C'est généralement des maisons des adolescents qui prend en charge en fait ces enfants qui ont besoin de parler et qui ont besoin vraiment d'interagir face à ce fléau-là.
Pour déjà arriver à mettre des mots justement sur les problèmes qu'ils rencontrent, on n'arrive pas forcément directement à se dire je suis victime de harcèlement ou peut-être même je suis moi-même un harceleur. Il y a un problème de prise de conscience chez ces jeunes qui des fois soit ne voient pas le mal, soit se disent que c'est de leur faute.
C'est ça.
Et selon les âges justement, les plus jeunes, comment est-ce qu'ils réagissent face aux interventions que vous leur proposez ?
Alors, école élémentaire, c'est beaucoup plus simple parce que en réalité on s'adapte selon les niveaux. Un niveau scolaire d'école élémentaire, on ne va pas faire la même chose qu'un collège. Et la plupart du temps, grâce à nos interventions, ces jeunes ont vraiment le dynamisme de comprendre, à vrai dire, ce fléau-là et sont conscients. Après, nous, la plupart du temps, de ce qu'on fait, c'est vraiment d'interagir à plusieurs répétitions dans le même établissement, c'est-à-dire 3 fois par an, parce qu'une simple intervention ne suffit pas largement. Comme la Journée nationale contre l'harcèlement scolaire qui propose l'État, ce n'est pas suffisant. Donc nous, on interagit tout le temps. Tout le temps, face à ce fléau qui est là, qui est très important, qui est présent sur le terrain.
Alors j'ai bien compris, vous étiez en service civique, c'est ça ? Qui vous a missionné du coup pour cette mission ?
Donc je suis en service civique moi personnellement, dans mon métier. Sinon la cause du harcèlement scolaire c'est vraiment du perso, parce que j'étais ancien victime de harcèlement scolaire et depuis peu j'interagis face à ce fléau-là. C'est pour ça que je me suis proposé de devenir ambassadeur, mais ça malheureusement je n'ai aucune réponse pour l'instant. Malgré tout je suis en service civique dans une école élémentaire où je suis vraiment là pour aider ces personnes-là à en parler et également aussi à participer auprès du CPCM2 pour les aider à leurs devoirs ou leur travail à faire.
Est-ce qu'il existe déjà de la documentation de par peut-être des professionnels ou par l'État sur laquelle vous pouvez vous appuyer ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est suffisante ?
Je pense qu'il y a, un réel manque de communication et de formation parce que c'est très très compliqué, on peut dire, de parler de cette cause-là. La semaine dernière, lorsqu'il y a eu la journée nationale contre le harcèlement scolaire, certains établissements n'ont même pas eu le questionnaire de certification. Donc pour moi, c'est pas assez, malheureusement.
Par exemple, si vous, dans votre travail, vous identifiez une de ces situations, comment est-ce que vous essayez de régler la chose avec le harceleur et le harcelé ?
Déjà, en premier temps, avant de pouvoir faire toute chose, il faut en parler. Moi, personnellement, comme je vous dis, je suis certain adulte, mais je préfère en communiquer avec mon équipe, avec l'équipe de d'autres personnes, c'est-à-dire... Quand on travaille dans une école, c'est vraiment important de pouvoir communiquer tous ensemble. Lorsqu'il faut agir sur une thématique de harcèlement scolaire et comment reconnaître le harcèlement scolaire, il vaut mieux en discuter que prendre nous-mêmes notre propre décision. Et suite à ça, donc dès qu'on a pris la décision entre équipes, eh bien, il faut faire quelque chose. Soit séparer les harceleurs et les victimes, ou soit directement communiquer, c'est-à-dire prendre en cercle de parole les personnes qui sont en train de subir certaines choses. Et à ce moment-là, on essaye de faire comprendre à ces jeunes que ce n'est pas bien, ou très bien communiquer avec les parents, parce que les parents sont aussi quand même un esprit d'équipe, et donc c'est important aussi d'interagir face aux parents. Comme je vous dis, voilà, si nous, on anticipe tous ensemble, les parents qui puissent comprendre aussi la cause, qui puissent comprendre aussi que c'est pas simple d'être professionnel, et aussi d'ailleurs les jeunes, c'est pas aussi simple, parce que quelques moments, c'est des conflits de groupe. Donc il faut essayer de se mettre en accord tous ensemble, parce que s'il y en a qu'un qui est d'accord, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut être ensemble pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est important que les jeunes de nos jours, et d'ailleurs ceux qui ont mon âge, gardent estime en eux, gardent confiance et puissent avancer sereinement. En tout cas, s'ils sont victimes de harcèlement scolaire ou très bien un harceleur qui se reconnaît, eh bien, qu'il faut qu'il en parle, qu'il essaye. Il ne sera pas là pour se faire juger, mais il sera là simplement pour se faire conseiller, parce que le jugement ne sert à rien. Moi, je le vois comme ça. Et c'est en s'améliorant les uns les autres que ça avancera.
Voilà, c'était donc Stéphane qui est du côté du Tarn-et-Garonne, mais qui circule sur toute l'Occitanie. Donc si vous souhaitez des contacts, eh bien appelez la radio. Et donc je me permets de vous redonner quand même 2-3 informations que je trouve sur Internet, à savoir que le ministère chargé de l'Éducation nationale propose un programme de lutte contre le harcèlement à l'école qui s'appelle PHARE et qui est obligatoire dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées publics. Voilà, il y a une plateforme que vous pourrez trouver en ligne si vous le souhaitez. Et donc, le fameux questionnaire dont on a parlé là dans cette interview, il était normalement censé être rempli en classe par les élèves donc entre le jeudi 7 et le vendredi 15 novembre, puisque c'est une semaine dédiée à ces problématiques. Eh bien, pour faire un petit point aussi au niveau national sur l'état des lieux du fléau, du harcèlement entre élèves, que ce soit en direct ou sur les réseaux sociaux. Et je termine en vous donnant le 3018, qui est la plateforme d'appel nationale pour signaler justement les cas de harcèlement et de cyberharcèlement. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'on termine ces nouvelles du monde. Je vous souhaite une bonne continuation dans la journée ou la soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous informe qu'il n'y aura pas de nouvelles du monde pendant 15 jours. Voilà. Vous allez pouvoir de nouveau regarder le soleil briller, puisque tout va bien. Oui, je suis parti en formation pour 15 jours, et donc on se retrouvera eh bien, début décembre en ce qui nous concerne. D'ici là, portez-vous bien, gardez le moral, et puis à très vite.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.